Merci, ouais, ça marche. Merci beaucoup, merci les amis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On a eu la semaine dernière un super culte, pas ici, au Costière. Et je veux d'abord vous remercier d'avoir joué le jeu, d'être venu. Hein, vous étiez nombreux, vous êtes là. Vous n'êtes pas dit, ah ben, c'est le culte en commun, je pars en week-end. Vous étiez là. C'était vraiment important. Vous saviez combien on était dimanche dernier? 1000. 1000 personnes. 1002. Plus de 1000 personnes. Vous vous rendez compte? 1000 personnes qui animent, ont loué le Seigneur ensemble. 1000 personnes qui ont proclamé ensemble l'unité du corps du Christ. Toutes les églises évangéliques avaient joué le jeu. Tous les cultes étaient fermés. Toutes les églises étaient fermées. Et tout le monde était invité à aller à la salle des Costières. Vraiment, moi j'étais extrêmement reconnaissant de ce que nous avons vu ce jour-là. Non seulement reconnaissant parce que c'est le fruit de l'unité, des relations, de l'amitié entre pasteurs, et Norbert qui participe, il est le trésorier de la pastorale, il passe beaucoup de temps sur ce domaine, mais aussi parce que c'est, et j'en suis profondément convaincu, une promesse pour la ville de Nîmes. L'Église, ce n'est pas quelque chose qui est à part dans la ville. Ce n'est pas un petit troupeau qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la ville. Nous avons une responsabilité. Nous sommes l'Ecclésia, l'Assemblée de Nîmes, toutes les églises de Nîmes. Et lorsqu'elles se réunissent et qu'elles se rassemblent, c'est une bénédiction pour la ville. C'est une promesse de salut et de restauration pour la ville de Nîmes et pour tous ses habitants. Donc vraiment, continuons à prier pour l'unité. C'est toujours un défi, il faut toujours continuer. Mais je voulais vraiment prendre 2 secondes pour vous remercier d'avoir été présents et pour souligner l'importance de ce que nous avions vécu dimanche dernier. Alors, vous le savez peut-être, depuis 6 mois, hein, ça fait longtemps maintenant, 6 mois, nous étudions l'épître de Corinthe, le premier épître aux Corinthiens. J'espère que vous n'êtes pas lassés par cet épître. Je ne pense pas qu'on peut se lasser de lire la parole de Dieu. Et plus je travaille et plus nous travaillons les uns et les autres sur cet épître, plus on en voyons la richesse et puis nous on se dit mais on n'a pas fini, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va arrêter de toute façon. Je vous encourage d'ailleurs, si vous n'avez pas pu écouter tous les messages, d'aller sur le site internet et vous cliquez sur les messages et vous aurez un onglet avec enseignement sur l'épître de Corinthe. Hein, Norbert a préparé tout ça et vous pourrez tous les réécouter. Y compris cet été, je vous encourage à le faire parce que là, vous les avez écoutés toutes les semaines, mais de prendre le temps de voir l'ensemble de l'enseignement sur cet épître global, c'est très riche. C'est une joie pour moi d'avoir fait ça avec mes frères, chargés de l'enseignement et de la prédication. Ça nous a demandé du travail, de bien se coordonner. Mais combien il est riche que même si nous étions 4, 5, à enseigner, nous étions tous dans un commun accord et combien les enseignements étaient complémentaires les uns des autres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 16 et la fin du chapitre 16. Alors, voilà, les salutations de Paul. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Je vous dis, est-ce que vous avez déjà pris le temps de lire ce passage? Est-ce que vous avez pris le temps, l'attention de lire les salutations de Paul? Ou est-ce que vous avez dit, parle de gens que je ne comprends pas avec des noms Aquilas, Priscille, je ne sais même pas si c'est des hommes, des femmes. Ça a l'air compliqué. Je ne sais pas si j'appellerais mon fils Aquilas. Pas facile dans les cours d'école. Ou est-ce que vous avez sauté ces passages? Comme vous avez peut-être sauté les passages sur la généalogie de l'évangile de Matthieu. Ou alors le nombre, alors là j'en parle pas. 5-6 chapitres avec que des noms de personnes, avec des noms incompréhensibles. Vous êtes peut-être dit, Qu'est-ce que ça fait dans la parole de Dieu? Pourquoi, quand, y compris les pères de l'Église, ont rassemblé les épîtres et les lettres, ils auraient pu dire, bon, bah, y a ça, c'était des détails, savoir s'il part la semaine prochaine ou dans 15 jours, ce n'est pas très important. Il y a l'enseignement doctrinal, il y a les éléments théologiques centraux, ça, il faut les garder. Et puis, la fin du chapitre, on va le couper parce que ça ne sert à rien. Non, ils n'ont pas décidé ça, ils ont gardé. Et nous croyons que cette parole est inspirée de Dieu. Et que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait ce chapitre 16 et cette salutation. Ce n'est pas un ornement. Une question encore. Si ces noms vous fatiguent, est-ce que ça vous fatiguera de lire votre nom dans le livre de vie? C'est bonne, hein? Ça sera encore un livre plus grand. Et vous savez que dans le livre de vie, il y aura tous les noms, individuellement. Il n'y aura pas 1000 pour Nîmes, 200 ici, à Vergèze. Non, il y aura le nom de Florence, de Norbert, de Gabriel, je ne vais pas tous vous citer, je voudrais. Il y aura votre nom à chacun. L'Éternel est l'Éternel de chacun d'entre nous. Il nous connaît individuellement. Chaque personne est importante. Et nous allons le voir dans cet enseignement. Il n'y a pas d'anonyme dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'orphelin dans la maison du Père. Nous avons tous un nom. Nous avons tous une place. Nous avons tous un rôle important, essentiel, dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir justement, dans cet enseignement, le rôle de chacun. Alors, en préparant ce message, j'étais même étonné par la richesse de ce texte et je me suis dit, mais j'ai 7 enseignements à faire, 4-5 enseignements à faire rien que sur ce chapitre. Et sans parler des dons et des offrandes, même en commençant sur le projet de voyage de Paul. Il y a un mot de « peut-être » de Paul sur comment Dieu dirige Paul. Et puis Paul se pose des questions, puis les portes ouvertes, et pas, voilà. Comment il se fait diriger par le Seigneur. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça parce que je vous noierai. Et on va parler seulement des personnes et qu'on va commencer donc au verset 10. Ouais. Il faut que je vous regarde pour que ça marche. Alors c'est écrit petit, on va le lire. Je vous encourage à ouvrir votre parole de Dieu. Et on va lire donc ces versets du verset 10 au verset 20. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'est décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices d'Archaïe. Elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Archaïus, effectivement. On ne va peut-être pas les prendre comme prénom pour mes enfants, mes petits-enfants. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Amen. Vous savez pourquoi on s'embrasse dans les églises maintenant? Alors commençons par le premier personnage qui est cité, Timothée. On connaît Timothée. Timothée aux îles, on connaît d'autres Timothée. Il est cité plusieurs fois dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Il était avec Silas, il rejoint Paul à Corinthe, ils travaillent ensemble. Et Paul va enseigner, former Timothée. Il va l'appeler mon fils spirituel. Il va l'envoyer à Philippe. Il va l'envoyer dans différentes églises, porter des messages, des lettres. Vous êtes bien conscient qu'il n'y avait pas obligatoirement le courrier impérial, n'allait pas distribuer les épîtres. Donc c'était des hommes et des femmes qui allaient d'une église à l'autre et qui transportaient et qui amenaient les lettres de Paul. Et qui non seulement les apportaient, mais les lisaient, les commentaient, encourageaient. Et ça a été le rôle de Timothée. Timothée partagera même la prison avec Paul. Et lorsque Paul sera en prison la seconde fois, il l'écrira pour dire « Mais je prie et je demande à Timothée de me rejoindre en prison. » Et il ne doute pas que Timothée va le rejoindre en prison. Waouh ! Vous seriez prêt à faire ça, vous ? Norbert en prison, il dit « Pascal, viens me rejoindre en prison. » Ouais. Voilà la nature de la relation. De la qualité des relations entre eux. Non seulement, on voit, et d'ailleurs, dans l'épître à Timothée, la seconde lettre à Timothée, qui est quasiment une des dernières lettres écrites par Paul, on voit qu'il se livre, c'est un peu son testament à Paul, mais aussi il parle de choses intimes, enfin intimes, des maux d'estomac de Timothée. Voilà. Et ça, il prend soin aussi de la santé, quand on doit prendre soin de la santé des uns des autres. Il n'y a pas des choses importantes et des choses moins importantes. Et il lui donne des conseils, plus ou moins, qui a été amené à des commentaires plus ou moins variés sur le nombre de verres de vin qu'on doit boire pour son estomac. Je ne rentrerai pas sur cet élément théologique fondamental, je laisse ça aux anglo-saxons. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette relation entre Paul et Timothée ? Un point essentiel. Essentiel et... qui a besoin d'être rappelé. Alors j'ai appelé ça un vieux mot parce que je n'aimais pas le mot le discipolat. Alors les Anglais diraient le mentoring, le coaching, être disciple, former des disciples. La base, et c'est un enseignement qui est pour nous important pour l'Église. C'est que nous soyons toujours en train de former des nouvelles générations. C'était la pensée aussi hébraïque. Rappelez-vous, Paul a été enseigné au pied de Gamaliel. Et je pense très sincèrement que la meilleure formation, pour tout, y compris pour un responsable d'église, n'est pas simplement dans une école biblique, mais auprès de responsables plus anciens. Et moi, en tout cas, j'étais dans une école biblique, mais là où j'ai le plus appris, c'est au pied des pasteurs avec qui j'étais. Et qui ont eu la joie, et j'ai eu le privilège qu'ils me disent « Mais on va te former, on va prendre du temps avec toi, tu vas venir avec moi, on va faire des visites ensemble, je vais t'expliquer comment on fait une visite, je vais t'expliquer comment on fait ceci, comment on fait cela. » Et j'ai tout appris avec eux. Et quand j'en parle encore maintenant, et je leur dis, mais c'est telle personne qui m'a formé. Ah, super, parce que, ouais, viens, c'était bien ce pasteur, ces pasteurs. Est-ce que quand nous voulons créer le collège, que nous avons créé le collège et que nous avons encouragé, que nous encourageons Norbert et moi, les jeunes, à participer à ce collège, c'est dans ce but. Je vous ai déjà expliqué que si on n'est pas enseignable et si on ne veut pas être un disciple, on ne peut pas avancer. Dans le corps du Christ. Je vous rappelle cette anecdote. La première, je vous rappelle, c'était une formation de responsable. Je faisais pas très longtemps que j'étais converti. Et puis, il y avait une formation pour le responsable. Je dis, bon, je vais y aller. Et puis, le premier jour, c'est sur l'autorité, le premier soir. Alors, moi, je me dis, oh, ben, l'autorité, ça, il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est. J'ai toujours voulu être délégué de classe. J'ai toujours voulu être le chef. Et là, la première réponse du pasteur a dit, dans le corps du Christ, dans l'Église, si vous voulez être responsable, il faut que vous appreniez à obéir et à servir. Alors là, vous savez, c'est comme dans les dessins animés. Je dis, j'ai rien compris, je sais rien du tout, il faut que je recommence tout à zéro, tout ce que j'ai appris dans le monde ne me sert à rien, parce que ce n'est pas ce qu'on apprend dans le monde. Il faut apprendre à obéir, à servir les autres. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années, des dizaines d'années, apprendre à obéir et à être au service d'autres. Timothée est un disciple. Puis il y a un mot qui est beau, c'est fils spirituel. Là aussi, une relation, c'est pas de l'autorité, c'est de l'amour. En tout cas, c'est de l'amour, c'est de l'autorité dans l'amour, ou de l'amour dans l'autorité. Et nous avons besoin d'églises où il y a des pères spirituels et des fils spirituels. Et j'aspire à ce que se lèvent en Église des gens qui soient prêts à accompagner, à soutenir les plus jeunes dans la foi. C'est la vocation, par exemple, de veut être mon disciple. Un plus ancien qui enseigne un plus jeune. Nous sommes dans la vocation du discipolat. Oui, un peu compliqué comme mot. C'est fondamental. C'est la clé de l'Église. Je vais avancer parce que je vous avais dit qu'il y avait trop de choses. Je pourrais vous parler du mépris et de ne pas avoir de mépris pour les plus jeunes, pour les nouveaux, pour les étrangers. Je parle de hors du département du Gard, hein, parce que déjà, je fais des blagues ce matin. Accueillir les gens qui sont en extérieur. Ne pas regarder avec les yeux des hommes, mais avec les yeux de Dieu. La chose la plus importante, c'est le regard spirituel. Quel regard je porte sur les uns et sur les autres? Est-ce qu'un regard humain, fait avec mes jugements, mes valeurs, qui peuvent être contraires, opposées aux vôtres? Ou est-ce que c'est avec le regard de Dieu? Demandez de l'aide pour avoir un regard spirituel. Et si vous voyez un frère qui est en difficulté, ne changez pas votre regard à son égard. Mais regardez avec les yeux de Dieu et les yeux du cœur. Alors on va aller très peu d'Apollos, parce que je veux avancer, il est déjà 20. Mais vous voyez bien que ce texte est d'une richesse incroyable. Là aussi, on a dit beaucoup de bêtises autour d'Apollos, compris dans les commentaires des fois. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme érudit, un juif, au fond très proche en termes de culture de Paul. Lui était d'Alexandrie, Paul était de Damas. Et ce qu'on voit à travers les épîtres et les actes, c'est que loin d'une rivalité ou d'un conflit entre Apollos et Paul, c'est un partenariat. C'est une relation étroite nouée entre eux, qui est fondée sur la confiance, la complémentarité, la collégialité, le refus de l'ego. Norbert a prêché sur ça. Combien c'est important, hein, quand il a prêché sur Apollos, Pierre, etc. Mais c'était aussi la pratique de Paul. Apollos n'était pas son collaborateur, c'était son partenaire. Et puis on va parler ensuite des salutations et on va parler de gens encore moins connus. Et pourtant, Paul en parle avec des termes très élogieux. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe. Alors, s'il y a des mots prémices, ça veut dire le commencement, la chose qui permet que tout est possible. Sans lui, rien n'est possible. L'Achaïe, c'est quoi? C'est le sud de la Grèce. C'est tout ce que la partie la plus importante de la Grèce. Donc, Stéphanas, c'est lui qui a permis l'évangile en Grèce. Waouh! On va peut-être appeler son fils Stéphanas maintenant. Stéphane, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais remettre un peu l'histoire et pour comprendre. Et pourquoi Paul parle de cette façon-là? Il vient d'Athènes où il a pris une pelle. Bon, ouais, c'est un peu ça. Enfin, bref, c'est un peu ramassé. Et il arrive à Corinthe. Il ne sait pas si ça va se passer de la même manière à Corinthe. Il ne sait pas si ça va être de la même manière. Et là, il y a une maison qui s'ouvre. C'est la maison de Stéphanas. Et il va être accueilli chez Stéphanas. Et c'est de cette maison-là qu'il va annoncer l'évangile. Sans Stéphanas, il n'y a pas, sans sa maison, rien ne se passe. Ah oui, il y a Paul. Mais sans Stéphanas, il n'y a pas Paul. Ça nous permet vraiment de réfléchir à notre rôle, aux uns et aux autres, à notre responsabilité. Et non seulement, donc c'est pour ça qu'il y a de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Et ce qu'on voit, c'est que Stéphanas, avec Fortunatus et Archaeus, car Archacus, sont partis de Corinthe pour aller voir Paul à Éphèse, pour lui expliquer la situation de Corinthe, et pour partager et pour collaborer. Ce qui m'a donné le goût de faire ces enseignements sur les salutations, c'était un livre de ma femme, un roman qu'elle a lu il y a très longtemps, un roman en anglais qui était sur les voyages de Titus et de Timothée. Et qui racontait comment, pendant toute cette période, les apôtres, les disciples allaient d'une ville à l'autre, que ça circulait. Ils n'étaient pas enfermés. Non, je suis de Corinthe. Je ne sors pas de Corinthe. Je ne sors pas de mon église. Mais qu'ils allaient en connexion les uns avec les autres, d'église en église, et qu'ils communiquaient, qu'ils échangeaient. Et que c'est ces relations, et on le verra avec Priscille, mais on les voit dans 2, 3, 4 églises différentes au fur et à mesure. Il y a de la liberté, il y a de l'échange, il y a de la connexion, il y a de la relation. C'est la nature du corps de Dieu. Et ça, c'est ces petits passages qu'on voit dans chaque épître sont des indicateurs incroyables de la relation et de la vie de l'Église, du temps des actes, et aussi dans les actes. Je me réjouis de la présence de Stéphanas. Ils ont supplié à votre absence. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez apprécier des personnes comme eux. Une maison est un prémisse. Alors je vais demander, parce que je vais parler un peu des groupes de maison, et c'était l'objet. Alors je cherche Nicole. Elle est partie. Ah ben oui, mais je lui avais dit d'être là, pas aux enfants. Non, elle arrive. Ben, je pense qu'elle avait un petit bébé dans les mains. Elle arrive. Et Roselyne, à Tunis. Si, allez, venez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du groupe de maison? Tabitha n'est pas là aujourd'hui. Il y a 13 ou 14 groupes de maison. 15. Loïc, responsable groupe de maison, ici présent. Alors on aurait pu vous citer tous. On a pris le plus jeune groupe. Ah oui, si tu viens, on va prendre le micro. Et donc, on voulait prendre pour aller de ce groupe parce que je vous explique pourquoi. Dans notre cœur, donc toi des responsables, ça fait très longtemps que nous aspirons à ce qu'il y ait un groupe de maison qui s'ouvre à l'est de Nîmes. Il y a beaucoup de familles, des nouvelles familles qui sont installées. Et c'était un sujet de prière pour Norbert, pour Loïc, pour tous les responsables. Mais on ne décide pas ce qui se passe. Et puis, c'est Nicole, elle va raconter après, qui est venue voir Loïc, il y a donc 7 mois. En fait. Elle a dit, j'ai à cœur d'ouvrir un groupe de maison. Alors maintenant, je vais laisser un peu Nicole nous dire pourquoi elle a ouvert son groupe, ou sa maison. Maintenant, parce que tu es la prémisse, peut-être pas de l'archi, mais... de l'est du Gard. Et Altenis, l'est du Gard, je pensais justement. Ah non, c'est l'est. Allez, vas-y.
Alors voilà, bon, j'ai préparé un petit anti-sèche, parce que j'ai peur de ne pas me rappeler de tout. En fait, voilà, j'ai entendu dire au mois d'octobre 2017 bon, qu'il n'y avait pas de réunion côté est de Nîmes et qu'il y avait quelques personnes de l'église qui habitaient aux alentours. Donc, rapidement, j'ai le désir d'ouvrir ma maison. Voilà, ça s'est imposé à moi, comme une évidence. Alors, c'est vrai que ce n'était pas dans les bonnes circonstances, parce que je venais de perdre mon époux, mais je désirais aller de l'avant et que son décès soit porteur de bénédiction au-delà des apparences et du deuil. Et je sentais que le Seigneur était d'accord avec ce projet. Donc voilà, ben, la réunion a démarré début janvier, avec comme objectif premier, en tout cas dans mon cœur, je suppose aussi dans le cœur des autres personnes, de se soucier les uns des autres. Voilà, suis-je le gardien de mon frère ? Et apprendre à tisser des liens d'amour, et je ne dis pas d'amitié, mais d'amour, au travers des rencontres ainsi que d'échanges de sujets de prière. Voilà. Alors au début, nous étions 7. Bon, Roselyne, Jean-Hugues, Tabitha, Nadia, Altenis, Pauline, ma fille et moi-même. Ensuite, Bruno, Françoise et Fred nous ont rejoints plus tard pour nous encourager, entre autres, avec le témoignage de Fred qui nous a boosté un petit peu. Voilà, qui nous a encouragés. Nous avons été encouragés avec des réponses aux prières. Donc, entre autres, ben, on a prié pour Tabitha, pour qu'elle puisse réussir son concours d'aide-soignante. Et elle a réussi aux deux endroits, Nîmes et Arles. Donc, elle était super encouragée, et nous aussi. Voilà. Et puis, nous étions aussi encouragés d'avoir la présence du Seigneur à toutes nos réunions. Voilà. Donc, bon, moi, personnellement, j'ai appris à connaître plus intimement chacun, et puis à créer des liens aussi d'amitié. Et je pense que chacun des membres s'est senti libre de partager que ce soit des bénédictions ou des encouragements, mais également des soucis à remettre en prière. Voilà, ben je pense que j'ai fait le tour et j'ai dit l'essentiel. Bon, je laisse la parole à Jean-Hugues.
Bon, ben, tu as tout dit. Hein. Bon, moi, j'ai noté que des points positifs dans cette réunion maison. Donc, on a fait connaissance, comme tu as dit, on tisse des liens fraternels et d'amitié, et d'amour aussi. On partage nos joies, nos peines, on prie ensemble pour des sujets qui nous touchent, sujets personnels ou extérieurs. Par exemple, des personnes qui souffrent et qu'on porte dans la prière, dans un sens d'évangélisation aussi. On mange ensemble aussi. On prie ensemble, on rit ensemble, et parfois, si c'est dur en hiver, pour sortir de la maison, eh ben, on se réchauffe ensemble dans des bons moments conviviaux, voilà, avec convivialité. Voilà, c'est, il y a que des points positifs, et j'aimerais encourager chacun à faire partie d'une réunion maison, s'il peut, c'est un bienfait.
Voilà. Amen.
Moi, je n'ai rien écrit, je vais improviser. Donc, Nicole a tout dit. Je sortais d'une période où je cherchais une réunion de maison où je puisse avoir ce lien fraternel d'amour, de convivialité, pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et en venant chez Nicole, ça a été pour moi la réponse à mes prières. Et j'ai été très, très touché de voir cet amour qu'on prend soin les uns des autres malgré le petit nombre qu'on est, mais on s'appelle, on reste en contact et ça m'a fait beaucoup du bien. Voilà. Merci.
Voilà, merci. J'allais dire, j'avais posé des questions, vous avez tout dit, donc bon. Voilà. Non, merci Nicole, merci à Tennis, merci à Bruno, à tous ceux qui est Fred, tous ceux qui sont dans ces groupes, dans ce groupe de maison. On le dit régulièrement à la rentrée, combien pour notre assemblée, le fondement de nos relations sont dans les groupes de maison. On reprend là aussi d'ailleurs quelque chose qui se passait du temps des Actes, hein, puisque nous voyons que c'est la maison de Stéphanas qui l'a ouverte. Juste après, on parle d'Aquila et de Priscille, qui sont l'église dans leur maison. Au fil des siècles, cette habitude a peu à peu disparu. Elle a existé bien évidemment au premier siècle parce qu'il y avait interdiction de pouvoir se réunir collectivement. Puis après, on a commencé à construire des salles qu'on appelait, qui étaient des salles municipales, qui s'appelaient des basiliques et qu'on a transformées en églises. On a fait des bâtiments, puis il y a une structuration, etc. Et peu à peu, cet héritage, ces conventions a disparu. De ce que je sais, en tout cas récemment, pas fait une histoire de toutes les, des groupes de maisons depuis 2000 ans. Et c'est intéressant d'ailleurs, au niveau de la méthode. C'est en Corée. Parce que un pasteur, Yonggi Cho, était dans les années 50 sous la crainte de l'invasion communiste et s'est dit, mais si demain mon église est fermée, comment va-t-elle fonctionner? Et il y a eu vraiment une révélation que ça marchera parce qu'il y aura plein de petites cellules. Et ce mouvement qui est parti dans les années 50 s'est développé comme un feu de paille dans le monde entier. Et sans faire d'études, les églises qui grandissent le plus vite, qui ont la plus grande croissance, sont les églises où il y a des groupes de maisons. Et puis, la persécution continue. Elle est un soutien pour les églises. Ça peut paraître étonnant. En Chine, il est interdit d'avoir des réunions de plus de 20 personnes. Donc, à 21, on multiplie les groupes de maisons. Et on crée deux groupes de maisons. Et 4, et 6. Et la croissance de l'évangile et de l'église à travers les groupes de maison en Chine est colossale et elle n'est pas maîtrisable. Donc le Seigneur a remis dans ces temps, et ça correspond tellement aux besoins des personnes et des gens dans notre société, les groupes de maison et la relation au cœur. Dans une société de spectacle, de paraître, d'image, dans une société de médias où tout est accessible, très honnêtement, sur Internet, vous allez trouver des prédications et des cultes meilleurs qu'ici. Non, mais je vous encourage. Allez-y. Ils sont très bons. Ben bon, je ne les encourage pas. Mais ce n'est pas ça la vision de Dieu. Si notre vision, c'est de dire, je vais à un culte, comme je vais pour partager, mais la communauté, le corps du Christ, la relation est bien plus importante et bien au-delà d'un culte du dimanche matin. Et les groupes de maison permettent d'avoir ces relations. Un groupe de maison, ce n'est pas fait simplement de personnes amies à qui je m'entends bien et qui sont tous pareils. On n'a pas fait des groupes de maison par niveau sociologique, familial, culturel, etc. Au contraire, c'est pour rencontrer réellement une personne différente de moi, avec qui je ne m'entends pas bien, qui ne sent peut-être pas bon. Ah, c'est arrivé. Ou qui est dans une situation difficile, ou qui porte qu'il y a des jugements politiques contraires aux miens. Je ne vais pas revenir. Il a dit des choses sur un tel, c'est inacceptable. Ou qui pense des choses incroyables sur telle chose. Et moi, je vous dis, les amis, restez. Restez avec les gens différents. Ne restez pas avec des gens qui sont comme vous. Surmontez les conflits. Apprenez à vous aimer, à vous connaître, à vous respecter même si vous n'êtes pas d'accord, à vous écouter. Un groupe de maison, ce n'est pas fait simplement pour se faire du bien. J'avais un copain, il disait, « Ouais, moi je vais plus au groupe de maison, et les gens ils viennent uniquement pour qu'on prie pour leurs ongles incarnés. » Ça fait mal un ongle incarné, il n'en avait pas à l'époque. Maintenant, il en a peut-être, il a peut-être réfléchi. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, mon copain, à travers ça? Si vous allez au groupe de maison simplement parce que vous avez mon petit besoin, puis je viens toutes les semaines pour mon besoin à moi, puis je reste après, je viens, je demande la prière pour mon sujet, puis tout le reste, m'en fiche. C'est pas ça, un groupe de maison. C'est de prendre les soins des uns et des autres. C'est d'apprendre à m'intéresser aux besoins de l'autre avant de parler du mien et d'écouter l'autre. Et de prendre le temps. Et puis là, on se rend compte que d'abord, que peut-être que quand j'entends un tel ou un tel, Ouais, bon, c'est peut-être un problème d'ongle, mais cette dame qui a tel souci, ou qui a perdu son travail, etc., a peut-être un souci encore plus grave que le mien. Et j'ai une responsabilité. Un groupe de maisons, je donne quelques règles, mais de base. Ce n'est pas simplement une étude biblique où on dit « quel bel enseignement !» Si cette étude biblique n'amène pas une transformation de ma vie, un changement de ma vie, si je ne la mets pas en pratique, si on partage, et pour ça qu'on encourage que ces réunions soient plutôt un lieu de partage autour de la parole de Dieu, plutôt qu'un enseignement d'une heure, mais qu'on soit ensemble pour partager, qu'on soit en confiance et en transparence. Si vous ne partagez rien, et si à chaque vendredi ou jeudi soir, ou mercredi soir, enfin plutôt mercredi ou jeudi, vous dites tout va bien, vous priez, vous avez remarqué qu'il y avait des gens comme ça, ils sont toujours prêts à prier pour les autres, mais jamais accepter la prière pour eux. Accepter la prière pour soi-même, c'est une œuvre d'humilité. J'ai des besoins, je les communique, je ne suis pas parfait. Et je les communique. Je n'ai pas un sourire de chrétien idéal, mais je viens avec mes problèmes, mes enfants qui m'ont fatigué. Je travaille tous les jours. Non, c'est pas vrai. Je blague, les pauvres enfants. Mais bref, ma vie, quoi. Mes problèmes de sous, mon argent, voilà. Sans partager des choses peut-être totalement intimes, mais si on n'est pas un minimum transparent, si on ne communique pas, si on ne partage pas nos besoins, notre transparence, si on ne se fait pas confiance dans un groupe de maison, on est à côté de la plaque. Encore une autre règle. Ah oui, les amis, super, bravo. Alors, surmonter les conflits, prendre soin les uns des autres, la confiance, unis par le sang du Christ et non par des affinités personnelles. Découvrir ce que c'est qu'être frère en Christ. C'est pas seulement avec des gens qui soient comme moi, mais c'est avec des gens différents, mais qui m'unissent parce qu'ils ont la même foi que moi. Combien je suis marqué, que ce soit dans l'église ou que j'aille au bout du monde, et que je rencontre quelqu'un qui est dans le terme de culture peut-être si différent, et que j'arrive à connecter, parce qu'au cœur, au-delà des différences sociales, culturelles, il y a la même racine qui est une relation personnelle avec Jésus. Waouh ! Unis par le corps du Christ, unis par Christ. Ce qui m'unit, c'est pas savoir la couleur de sa peau, c'est qu'on a le même Christ en soi, en nous. Et ça, c'est un miracle. Un miracle, et c'est vrai que c'est beau de le voir dans notre assemblée, c'est beau de le voir avec des frères et sœurs dans notre ville, mais si vous avez l'occasion, et si le Seigneur vous amène à rencontrer, ou des gens qui viennent, de rencontrer des gens qui viennent de loin, qui viennent même à Nîmes, peu importe, pas obligé d'y aller au bout du monde, et de découvrir qu'ils ont la même histoire que vous. L'étude de la parole de Dieu, je vous ai dit, elle est fondamentale, mais elle doit être pour m'amener à changer dans ma vie et à grandir. Et là, vous allez peut-être, vous, en tant que dans un groupe de maison, dire ben, on voudrait vraiment travailler sur tel sujet ou tel sujet. Puis le dernier point, pour terminer sur les groupes de maison, et vu l'heure, qui est fondamental parce que et ça revient à Stéphanas et sa maison. D'ailleurs, Paul a baptisé que cette famille-là. C'est-à-dire, j'ai baptisé personne à Corinthe, sauf Stéphanas et sa famille. C'est un groupe de maison, c'est fait pour partager la bonne nouvelle. C'est pas un petit groupe pour moi-même. C'est fait pour bénir, c'est un prémisse pour le quartier, pour le village. Je vous ai déjà encouragé, mais je le redis, je rêve, je souhaiterais que chaque groupe de maison ait un projet, compris social, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en disant, tiens, ben, on va peut-être dans notre village, je sais pas, bon, le parc il est sale, et ben le groupe de maison va aller samedi nettoyer le parc. C'est un projet. Pourquoi vous ne le feriez pas? Ou dans mon quartier, il y a tel besoin, je ne sais pas, on va offrir des cafés, des croissants. Personne ne se parle, ben on va aller faire une table et poser des cafés, des croissants. Et puis tout simplement parce que si mon groupe il est vivant, si on partage, si on grandit, si on est ensemble, j'ai envie de... si ce n'est pas un groupe fermé, on est tous pareils, tous avec la même étiquette, le même habit religieux. Je peux amener quelqu'un qui est totalement différent, je peux amener un non-croyant. S'il vient dans un groupe où ils sont tous pareils, mais le gars il va se dire, un c'est une secte, deux ils sont fous. Mais s'il voit qu'ils sont naturels, qu'ils sont normaux, qu'il y a Gabriel et Stéphane et Antoine ensemble, et puis qu'ils sont bien ensemble, ils disent, ah mais qu'est-ce qui les unit? C'est l'amour de Dieu. Et là ils viennent, et le copain de Gabriel, bah, il dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec parler avec Antoine et Stéphane? Mais non, mais c'est intéressant de parler avec Antoine et Stéphane. Hein? N'est-ce pas Antoine? Ouais, oh, pas... Mais c'est ça. Donc, groupe de maison, c'est pas un truc, c'est pas un machin, c'est pas une méthode, c'est pas, c'est fondamental et c'est le cœur de l'Église et de notre vie chrétienne. C'est le cœur de ce qui s'est passé avec Stéphanas, ce qui s'est passé à Corinthe. Et aujourd'hui, dans notre société, nous ne toucherons pas le monde si les groupes de maison ne grandissent pas, s'ils ne se développent pas, s'ils n'ont pas cette vision, et si ce n'est pas des petits groupes, je dirais des petits cercles fermés, mais des cercles qui sont là pour se changer soi-même et changer le monde. Et si vous ne croyez pas, croyez ce que dit Paul, Stéphanas a changé l'Achaïe. Alors si Stéphanas l'a fait, je ne le connais pas personnellement, mais j'en suis convaincu que vous tous ici, vous êtes capables et nous sommes capables de le faire. Voilà ce que je voulais dire sur les groupes de maison, puisque c'est la fin des groupes de maison pour cette année, et donc un encouragement à la fois pour tout ce que vous avez fait. On a parlé de Marguerite, mais je sais très bien, je ne vais pas tout citer, parce qu'il y en a 15. Des fois, les gens sont plus souvent au groupe de maison qu'au culte, et ce n'est pas un problème. Non, je ne devrais pas dire ça non plus. Il y a à peu près 150 personnes dans les groupes de maison. Merci Seigneur pour cette croissance. Je prie pour qu'année prochaine il y ait de nouveaux groupes. Et puis je mettrai, vous aurez ce papier sur internet, mais repensez à ces 5 règles pour la vie d'un groupe de maison. Parce qu'ils sont fondamentales. Et c'est la base d'un groupe de maison. Alors je vous propose qu'on va terminer avec Corinthe. On a dit qu'il y avait beaucoup de points avec nous, la preuve. Ils nous ont copié les groupes de maison. Mais ce qu'il termine, et ça va être la dernière phrase, et ce qui est la base de tout, c'est les derniers mots de Paul. Demeurez ferme dans la foi. Que tous les frères vous saluent et se saluent par un saint baiser. Ce qui nous unit, c'est l'amour. Nous allons prendre le repas de la Sainte Cène. Oui, la Sainte Cène, ça suffit, le repas de la Sainte Cène. La Sainte Cène, ça va être Timothée qui va le faire. Hein. Mais pendant ce temps, nous sommes unis. Que nous puissions vraiment tout simplement nous dire quel est mon engagement vis-à-vis de toi, Jésus? Quel est mon engagement vis-à-vis de mon frère et de ma sœur? Et je suis convaincu que le Seigneur veut nous parler ce matin pour dire, mais comme il a dit, comme Paul a dit, soyez des hommes et soyez des femmes en Dieu. Que nous puissions être grands, grandir. Pas être simplement passif, mais acteur. Acteur dans mon cours de maison, participant. Ne pas attendre, mais de donner. D'aimer, toujours, sans cesse. Seigneur Jésus, c'est ma prière ce matin pour notre assemblée. Merci pour tous les responsables de groupes de maisons, pour les maisons qui se sont ouvertes, pour l'engagement de tous ceux qui, semaine après semaine, ont apporté la parole, la louange. Vraiment que tu les bénisses, que tous ces responsables soient bénis ce matin. Merci Seigneur de les bénir, de bénir aussi tous ceux qui ont participé et que, à travers cette parole, cet enseignement ce matin, tu puisses vraiment parler au cœur, qu'il y ait des Stéphanas se lèvent dans l'Église, ou des Stéphanies se lèvent dans l'Église et se disent, oui, il n'y a aucune raison que je n'ouvre pas ma maison. Ce qu'il a dit là, c'est possible et je peux le faire. Je n'ai pas fait 50 théologies, mais je peux ouvrir ma parole de Dieu et prier avec mon frère et ma sœur autour de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu parles et les prémices que tu mets dans le cœur de chacun. Et je te demande vraiment de renouveler, Seigneur, pour chacun d'entre nous, notre vision des cours de maison et l'importance de ceci dans la croissance, dans notre vie spirituelle, dans notre vie en Christ et dans la proclamation de l'Évangile. Amen. Soyez bénis, les amis.